On a tous en mémoire un ou deux ou mille souvenirs culinaires, des petits et grands moments de partage, sophistiqués ou improvisés. Que ce soit un festin somptueux ou une improvisation gourmande, chaque plat a le pouvoir de raconter une histoire, de créer des liens et de faire battre nos cœurs un peu plus fort. À travers ces mets qui éveillent nos sens, nous explorons les joies simples et les émotions profondes qui peuvent rendre un repas mémorable. Parce que cuisiner, c'est bien plus qu'une simple préparation culinaire. C'est une façon de montrer son affection, de célébrer la vie et de s'exprimer avec une touche personnelle. Alors les ingrédients de l'émission sont simples. Un épisode, une recette, une rencontre. Dans Cuisiner avec amour, nous avons choisi d'explorer l'essence même des moments passés dans la cuisine. Chaque épisode sera une immersion dans une recette, une rencontre avec une personne qui partage ses histoires, ses passions. Parce qu'au-delà des ingrédients et des techniques, il y a des récits à découvrir, des rires à partager et des liens à tisser. Alors préparez-vous à vous immerger dans les aventures culinaires où chaque plat est une déclaration d'amour, chaque préparation, une histoire à raconter. Alors aujourd'hui on est au Vigan, on est sur une terrasse de café du Vigan, sur les terrasses du Café de l'Avenir. On s'est donné rendez-vous ici avec Nasser Benhamani, qui est un grand chef aujourd'hui, qui a commencé par entrer par la petite porte d'un grand palace niçois, donc le Negresco, pour ensuite partir à Londres dans un autre grand restaurant français, et puis revenir ensuite dans le sud de la France. Et donc Nasser, tu vas nous parler d'une recette. Alors ce qui est marrant, c'est que tu m'as dit c'est une recette simple, mais que j'ai eu beaucoup de difficultés à faire et pour laquelle j'ai fait 600 tentatives. Tu m'as parlé de 600 tentatives avant d'arriver au résultat que tu voulais obtenir sur cette recette. Alors, raconte-nous un peu cette recette. Alors, je ne sais pas s'il va falloir la faire 600 fois pour qu'on arrive à quelque chose de bon dans notre cuisine, si on veut essayer de la reproduire. On se contentera de ce qu'on arrive à faire, mais en tout cas, on a hâte que tu nous racontes ça.
Alors, suite à un voyage en France de mes anciens patrons de Londres, qui s'appelle le Bleeding Heart, monsieur et madame Wilson ont fait un repas dans le restaurant gastronomique de Hélène Darros et ils ont goûté une tarte Tintin aux trois betteraves avec sa mousse de chèvre. Qui dit tarte Tintin dit un dessert, mais en fait c'était une entrée, donc il y avait ce sel qui ressortait et cette amertume, cette douceur de chèvre qui était montée en mousse. Bon, pour la mousse de chèvre, c'était très facile parce qu'on l'avait déjà à la carte. J'étais dans un restaurant à Londres où on faisait plus de 1000 couverts par jour. Donc c'était hyper facile de le faire. Mais la tarte Tintin, je l'ai fait au moins 600 fois au minimum. Ça a été 3 mois de galère sur cette recette. 3 mois, intense.
En général, on s'imagine la tarte Tintin comme un truc assez simple finalement. Qu'est-ce qui a bloqué ?
La tarte Tintin, c'est une recette qui est assez simple à faire et c'est vraiment facile à faire et en une heure c'est fait. Mais là, la complexité des choses, c'était qu'il devait avoir les 3 couleurs des betteraves qui devaient sortir. Donc la rose, la orange et la rouge. Cuite dans un four avec un caramel salé, aussi sucré que salé, mais il faut du sucre. Et il fallait qu'aucune couleur prédomine sur les autres. Mais une betterave, quand vous découperez une betterave cuite, forcément vous allez en avoir plein les doigts si vous ne mettez pas des gants préalables. Donc à chaque fois que je faisais ça, elle ressortait toujours de la même couleur uniforme. Mais on insistait pour avoir les 3 couleurs. Et aujourd'hui, je peux vous le dire en 10 minutes, mais ça a été dur à comprendre. Elle a même essayé d'appeler le restaurant de Hélène Darros pour lui demander de reproduire cette recette et la partager avec notre clientèle londonienne. Et ils nous ont expliqué que c'était un secret culinaire et qu'elle était réputée pour ça et qu'elle était connue et reconnue pour ça. Ce qui n'est pas à mon sens de la restauration parce que la cuisine c'est un métier de partage. Il faut qu'on apprenne des uns et des autres et des expériences des uns et des autres pour transmettre. Ça ne m'aurait pas dérangé de l'appeler sur la carte de mon restaurant que je signais à Londres, la tarte Tintin selon Madame Darros. Donc ils ne nous l'ont pas donné, donc on a souffert. Et le résultat de cette recette qu'on a réussi à reproduire à l'identique et à mes yeux voire meilleur parce que j'ai eu l'occasion d'y goûter est sorti d'un commis de cuisine qui avait 6 mois d'expérience à la cuisine, donc aucune logique culinaire. Et c'est lui qui nous a sorti la plus belle. Donc notre ego en a pris un coup, mais sa recette elle est appliquée à la lettre et sa façon et sa technique de production a été faite à la lettre pour pouvoir la proposer à tous nos clients. Et c'était un de nos best-sellers à Londres.
Ba-da-da-da! Ba-da-da-da-da! de la moutarde, du pain du beurre, de petits oignons, des confitures et des œufs durs, des cornichons, des cornets de bif et des biscottes, des macarons, un tire-bouchon, des petits beurres et de la bière, des cornichons. On n'avait rien oublié, c'est maman qui a tout fait. Le poulet froid, la mayonnaise, le chocolat, les champignons, les ombres boîtes et les tomates, les cornichons. Les confitures et les cornichons, la moutarde et le beurre, la mayonnaise et les cornichons, le poulet, les biscottes, les œufs durs et puis les cornichons.
Bon, si je comprends bien, c'est une recette secrète. On a l'impression que tu as failli presque te faire éliminer pour avoir voulu la reproduire. Tu arriveras à nous décrire les étapes du coup ?
Les étapes, une tarte tatin, si vous avez eu l'occasion d'en faire une à la maison, on part de pommes crues pour les cuire. Là, on triche un peu, on les blanchit à l'eau, chaque couleur séparément, et on les découpe de façon uniforme, mais on mélange que les deux couleurs, donc la rose et la orange, qui ne décolorent pas la cuisson, et la rouge, on l'insère au dernier moment. C'est ça qui fait le secret d'avoir les trois couleurs. Si vous faites une tarte tatin un jour et que vous n'avez pas assez de pommes, la tarte tatin va s'affaisser. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on ne mettait pas assez de betterave des deux couleurs pour pouvoir insérer la troisième couleur. Et le client ne le ressentait pas parce que tout était cuit à la même température, à la même durée, mais sauf que c'était cuit séparément.
Et alors du coup, les betteraves, elles étaient coupées en petits bouts, en moitié, c'est un peu comme une tarte, d'accord, en quartier.
Les betteraves, vu que les betteraves des trois couleurs n'arrivent jamais de la même taille, les rouges sont les plus importantes, on les coupait vraiment en quartier, trichait un peu pour avoir la même taille. Donc on n'avait pas de perte, parce qu'avec les restes des betteraves qu'on ne pouvait pas insérer dans la tarte tatin, on faisait souvent des soupes du jour, et une des soupes du jour, c'était la soupe à la betterave, qui est une excellente soupe d'ailleurs.
Alors visuellement, on a un truc qui est hyper coloré avec cette légèreté de la mousse de chèvre, le côté fondant hyper gourmand de la betterave qui a caramélisé dedans.
Oui, c'est exactement ça. En fait, on a vraiment les trois couleurs. On a les trois couleurs de la betterave. Après, on a le caramel qui s'est inséré et qui va plus vers le fond quand on l'a retourné. Et après, on a le croustille de la pâte feuilletée. On a vraiment les trois couleurs et on gardait beaucoup de relief. On rajoutait de la décoration avec de la betterave crue en mousse et en émulsion. Et on avait vraiment la tarte tatin qui était au milieu de l'assiette et qui parlait d'elle-même, quoi. Avec sa quenelle de mousse de chèvre qu'on mettait en plein milieu. Mais il fallait que ce soit léger parce qu'on était dans un restaurant qui s'appelle le Blindgart à Londres. Il a été élu pendant 5 ans d'affilée le restaurant le plus romantique de Londres. Et on était réputé pour être vraiment un business lunch. Et vraiment, on était au cœur de Londres, dans la city, dans le monde des affaires, et où on faisait 1000 couverts par jour, mais 1000 couverts avec une brigade de 60 cuisiniers, une boucherie, une boulangerie et une pâtisserie. On faisait vraiment tout maison. C'était vraiment plusieurs corps de métier qui travaillaient en même temps, plusieurs nationalités. On avait vraiment une clientèle très haut de gamme, on faisait très 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 attention, et toutes les erreurs se payaient cash, si je peux me permettre.
Life, try forget by pressure now, ease up no matter what. Babylon upon my case. People in a show, all lined in a row. We just push on by. It's funny how hard we try. Take a moment.
Itinerant is what I've chosen. I find myself in a big city prison, arisen from the vision of mankind, designed to keep me discreetly, neatly in the corner. You find me with the flora and the fauna and the hardship. Back a yard is where my heart is. Still I find it hard to depart this big city life.
Big city life, me try to forget my pressure, naive up no matter how hard me try. Big city life, in my heart have no base. And right now
en début d'émission que tu étais arrivé dans la cuisine par la petite porte d'un grand palace niçois, le Negresco. Tu peux nous raconter un petit peu comment s'est passé ton premier contact avec la cuisine ?
Alors, c'est pas réellement exact, Charles, ce que tu viens de dire. C'est parce que je suis pas rentré par la petite porte, c'est pas vrai. Je suis rentré par le petit trou de souris. J'avais un parcours scolaire qui était assez chaotique. Et après avoir redoublé ma cinquième, je venais d'avoir 15 ans. Et on m'a mis dans une session qui s'appelle la troisième d'insertion. Je ne sais pas si elle existe encore dans l'éducation nationale. Et c'est une session un peu où on met des jeunes qui sont en difficulté scolaire et qui n'ont pas envie de faire d'efforts, ce qui était mon cas à l'école. Donc dans cette session, on faisait à peu près, on va dire, 15 jours d'école et 15 jours de stage en entreprise, ponctués par deux vacances scolaires. Et on m'a mis au pied du mur, mi-septembre, où on m'a dit, il faut absolument que tu trouves une entreprise, sinon tu seras viré de cette session et au bout de la saison, l'année, tu auras 16 ans, donc tu seras livré à toi-même. Ce qui était le cas à pas mal de copains à moi dans la cité où j'ai grandi. Donc je me disais, bon, je vais chercher. Et en cherchant assez assidûment, tous les jours, j'ai réussi à trouver un stage. Mais je ne savais pas où j'avais postulé, parce que c'était dans une des ruelles. Alors il faut savoir que le Negresco, c'est un palace à Nice qui est en front de mer sur la promenade des Anglais. Mais il y a des arrières-cours qui donnent sur des rues adjacentes qui sont beaucoup moins esthétiques que la promenade des Anglais. Et là, je vois des gars qui sont habillés en cuisinier, et je me dis, c'est bon, peut-être qu'ils ont un travail pour moi. Je me présente et je lui dis, voilà, je cherche un stage en entreprise. Et t'as un des cuisiniers qui me regarde un peu de haut en me disant « Tu veux vraiment bosser, toi ?» J'ai dit « Ben oui. » Sauf qu'à cette époque-là, j'avais l'accoutrement d'un jeune de 15 ans, survêtement, t-shirt, pas présentable du tout pour un emploi, quoi. Et c'est, ça, parce que ça me revient, là, parce qu'aujourd'hui, j'emploie des gens, donc quand je les vois en survêt de basket, je suis très, très dur avec eux parce que j'étais pas présentable pour un emploi. Donc de là, il me dit « Oui, bon, reviens demain. » J'ai dit « Oui, ok, quelle heure ?» Il m'a dit 8h, en pensant que ça allait me faire peur ou je sais pas. Et j'étais là le lendemain à 8h15, déterminé. Mais là, cette fois-ci, j'ai mis le jean. Et là, j'avais pas compris parce que là, je travaillais en cuisine et il voulait que le stage commence aujourd'hui. Mais en fait, je venais juste pour faire signer la convention, pour qu'elle soit acceptée par l'école. Il y avait tout un process qui était assez long. Il m'a dit non, moi, je signerai pas la convention si tu montres pas ce que tu veux, quoi. Là, il n'y a pas eu de question à me poser. J'y suis allé. Ouais, j'avais un jean et des chaussures qui n'étaient pas adéquates pour la cuisine, donc je glissais. Et bon, on finit la journée, qui était dans une cuisine, dans un sous-sol d'un palace qui était magnifique de l'extérieur. Mais la cuisine, c'était un environnement qui était très, très renfermé. Et j'avais l'impression de ne pas pouvoir respirer correctement. Mais en fait, c'était juste que j'étais pas habitué à ce monde du travail, quoi. Et cette journée, elle m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. À la fin de la journée, je savais pas à qui je parlais, mais j'ai parlé à un monsieur Maximin, Jacques Maximin de son prénom, qui est un MOF, meilleur ouvrier de France, et qui a inventé quelque chose dans cette noble cuisine française, dans cette noble gastronomie française, qui s'appelle l'emporte-pièce. Avant ce grand monsieur, il n'y avait pas de dressage à l'emporte-pièce dans les cuisines françaises.
C'est une figure de l'histoire de la cuisine française, du coup.
Pas dit par lui, bien sûr, parce que c'est une noble personne, mais dit par les plus grands, dont Alain Ducasse. C'est un de nos génies de la gastronomie française, comme l'était Escoffier ou comme il était Bocuse. Et donc, je ne savais pas que c'était lui. L'ignorance d'un gamin de 15 ans, il me signe ma convention, j'en étais même pas spécialement fier. Je pensais qu'il avait de la chance de m'avoir, mais je me trompais carrément. C'est le regard des autres qui m'a montré que j'ai eu peut-être la chance du débutant. Ce chef, est, je pense, a eu de l'attachement à titre personnel pour moi, mais pas à titre professionnel, parce que j'étais loin d'être au niveau. Donc cette troisième insertion se termine. Et là, il me convoque dans ce bureau et me dit « Je te signe ton contrat d'apprentissage ». J'en étais content, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrance, je me disais « Est-ce que je serais capable d'assumer ce contrat d'apprentissage ?» Parce qu'à cette époque-là, en insertion, je ne coûtais rien. L'apprentissage, c'est double pression. Il faut tenir le coup au CFA, qui était très dur, et il fallait tenir le coup en entreprise, où c'était très dur aussi. Vu que j'avais zéro culture culinaire, donc zéro expérience restaurant, à cette époque-là, j'avais mangé peut-être deux fois dans ma vie dans un restaurant, parce que je suis issu de l'immigration et qu'on n'avait pas cette façon de voir la vie, je me disais, c'est dur, quoi, je ne vais pas y arriver. Après beaucoup de souffrances, je signe mon contrat d'apprentissage l'été de mes 16 ans. Chaque mois, je souffrais et je voulais abandonner. Et chaque mois, il y avait un truc sur lequel je me raccrochais, c'est que j'étais loin d'être bon, donc je voulais être bon, je voulais être bon, je voulais être bon. Donc on commençait à 7h du matin, j'arrivais pour 6h. Je n'avais pas le droit de travailler le soir après 22h. Je partais à 00h30. On mangeait debout en 5 minutes. On n'avait pas le temps. Le nombre de fois où je suis rentré à la maison à pied parce que j'avais pas de quoi payer le ticket de bus, bon, c'est pas beaucoup en distance, 7-8 km, je pleurais sur la route. À cette époque-là, le restaurant du Negresco s'appelait le Chanteclair. On avait deux étoiles au guide Michelin et ils voulaient reconquérir la troisième avec l'équipe. La barre était très très haute. Il m'a jamais considéré comme un fils parce qu'il était très distant et très froid de nature et encore plus avec moi. Et il m'a dit bravo, c'est bien, 4 fois en 5 ans. Et ces 4 fois-là, c'est comme si. J'avais gagné à l'euro million. Et en grandissant un peu, en deuxième année, j'ai découvert que pour rentrer dans cet établissement, il y avait 3 ans d'attente, voire 4 ans d'attente, et recevait 200 CV pour une place. Quand je disais à l'école que j'étais au Chanteclair, tout le monde me regardait en me disant « Ah, et comment ça se fait? Comment t'as postulé ?» Donc je leur ai expliqué un peu. Limite, ils me prenaient pour un menteur, quoi. Mais pour moi, c'était ce qui s'était passé, donc je racontais comme ça. Et j'ai eu une chance inouïe. C'est qu'à ce moment-là, ils faisaient une réunion dehors et que j'ai fait la belle rencontre au bon moment et je me suis battu pour garder ma place, quoi. Je suis sorti de major de ma promotion. Je suis resté 2 ans plus. Et après, il m'a fait ma lettre de référence et il a passé un coup de fil quand je suis monté à Londres pour aller me présenter un boulot à Londres. Donc à Londres, ça a été prémâché par M. Maximin.
As long as we are flying, all this world ain't got no ends. All this world.
Donc en fait, là, tu nous racontes une histoire assez incroyable. Tu te retrouves donc pris dans ce grand restaurant. Donc tu vis ce que tu qualifies presque d'enfer, mais en même temps, tu es en train de te créer un avenir de réussite dans le milieu de la restauration grâce à ça, quoi. Et là, tu arrives à Londres et tu vas gravir les échelons à une vitesse assez incroyable.
Bon, techniquement, j'étais meilleur qu'à mon arrivée, au bout de 5 ans d'expérience au Negresco. Sauf que là, je comprends plus rien. Dire bonjour, j'étais à la limite, quoi. Et là, je tombe sur le restaurant Le Blingard, dirigé par Pierre Kaufmann, Gordon Ramsay, Marco Pierrot, tous ces chefs, Jason Atherton, tous ces chefs qui sont mondialement connus, sont tous passés chez lui. Nouveau monde. On recommence tout à zéro. Donc il m'a proposé une place de demi-chef de partie, j'ai refusé en disant je préfère commencer comme uni, histoire d'apprendre le vocabulaire et que je commence à performer, quoi. Mes supérieurs, techniquement, quand je travaillais, ils me regardaient faire en me disant waouh, c'est eux qui me donnaient les ordres, quoi. Donc ça les dérangeait aussi, mais mon ego n'a pas pris un coup parce que je leur prenais l'anglais et eux, ils prenaient ma connaissance en cuisine.
Ton retour dans le sud de la France, ça fait un peu penser à un cycle en fait. De l'apprenant qui va passer toutes les étapes jusqu'à devenir chef exécutif du Bleeding Heart et qui revient en France pour transmettre à son tour.
À Londres, j'ai été exécutif chef du Bleeding Heart et en même temps, j'étais chef consultant pour le groupe Elior. Le métier de cuisinier, dès ses 4 ans d'expérience, on est déjà chef de partie, donc on a toujours un commis à former. Tous les métiers de la restauration, on est toujours formateur. Et plus on grandit, plus on apprend à affiner un peu sa formation. Ce qui compte, c'est le résultat. Et toujours, comme d'habitude, le résultat, c'est quoi? C'est l'éclosion d'un jeune en quelqu'un de performant. Déjà pour son entreprise et pour lui-même. J'ai juste fait ça à plus grande échelle que les autres. Et c'est beau, ce métier de formateur. Plus que de composer des cartes, il faut avoir les humains derrière. Les humains, si on ne les accompagne pas pour qu'ils nous accompagnent derrière, ça ne marche pas.
Tu me parlais de transmission, de partage. Aujourd'hui, tu supervises combien de restaurants et combien de personnes gravitent autour de tout ça?
Alors, je supervise 2 restaurants sur Argelès, qui sont La Villa et Les Planches, en tant que poste de directeur des opérations. Je supervise 4 autres restaurants sur Collioure, qui sont le Copacabana, le Bora Bar, le Saint-Vincent et la Casa Léon. Je suis consultant dans un autre restaurant qui s'appelle La Suite. Et je suis copropriétaire d'un autre restaurant qui s'appelle Gaïa. Je supervise 240 salariés et plus de 350 000 repas par an.
Là, du coup, je fais un peu le lien avec le titre de l'émission « Cuisine avec amour ». Pour toi, c'est quoi la place de l'amour dans la cuisine?
Si je fais ça sans amour, ça se voit. En fait, on ne peut pas se mentir. On ne peut pas mentir. Aujourd'hui, quand j'explique à un restaurateur qui n'a aucune culture culinaire, qui s'en sort bien, je lui dis « c'est bien ce que tu fais, tu as la surface ». Et garde-la, ça te va tant que c'est pécunier, c'est bien, et que tu arrives à t'en sortir, mais t'es loin du métier, quoi. Ça se voit. J'ai un œil assez avisé là-dessus et tout se voit vite.
Ce que tu veux dire, c'est que tu vois si les choses ont été faites avec amour ou pas quand tu vas dans un restaurant. On voit la quantité énorme de travail qu'il faut consacrer pour arriver au niveau des grands restaurants. Mais derrière ça, ce que tu me dis, c'est que en fait, c'est l'amour qui va faire la différence entre le bien et le super.
Pas que dans les grands restaurants. Il y a des petits restaurants sans prétention où le cuisinier est le seul, où il fait une carte avec les contraintes qu'il a financières à 16 ou 17 euros entrée plat dessert. Et je te dis que c'est de haut vol. C'est de haut vol. Il aime ce qu'il fait. Et il le fait bien, et ça se ressent dans l'assiette. T'es pas obligé d'aller manger dans un gastronomique pour apprécier. Ça veut rien dire, ça. Il faut de l'amour. Et l'amour, tu peux le ressentir dans un menu à 16 balles, dans un petit village paumé de la France, où tu te dis qu'est-ce que je voulais déjà. Et il n'y a pas de prétention, mais il y a de l'amour. Et l'amour, tu ressens autant d'excitation à manger ton menu que de manger dans un palace où forcément tout est trop calibré et plus assez d'humain, quoi.
Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aujourd'hui aux gens qui nous écoutent pour réussir un bon repas? C'est une question que je pose assez souvent, assez régulièrement. Comment faire un bon repas?
C'est compliqué cette question. C'est mes dernières années à Londres où j'étais vraiment en pleine confiance. Je reçois une des personnes les plus importantes d'Angleterre, qui est le PDG de De Beers. De Beers, c'est le plus gros importateur, fabricant et de diamants au monde. Il contrôle 80% du marché du diamant, qui mange avec mon patron. Quand il y a des VIP comme ça, il demande toujours à voir le chef, donc j'arrive en salle. Et là, mon patron, il me dit, bon, qu'est-ce que tu peux proposer à monsieur De Beers, enfin, au PDG? Je lui dis, omelette frites. Et il m'a regardé, c'est pas le genre de personne qui avait l'habitude de manger ce genre de... Donc je lui ai fait une omelette tournée à la française, avec des frites. J'ai mis une petite poignée de frites. Et il m'a dit, c'est le meilleur repas que j'ai mangé depuis longtemps. Et il me dit que la veille, je ne me compare pas à lui, attention, la veille, il avait mangé au Dorchester chez Alain Ducasse, au 3 Mac. Donc je me dis, c'est pas mal quand même.
C'est quoi la morale de cette histoire?
Rester simple, honnête et donner de l'amour.
Merci d'avoir rejoint notre petit voyage culinaire. C'était Cuisiner avec amour. Nous avons hâte de vous retrouver pour de nouvelles recettes, de nouvelles rencontres et de nouveaux moments de partage. Sur ce, continuez à cuisiner avec amour, à partager avec passion et à célébrer chaque instant avec délices.